Bonjour, c'est aujourd'hui la Toussaint, c'est le 1er novembre. C'est une des grandes fêtes de l'année, pourtant la plupart des gens ici ne le savent même pas. Ils ont su que c'était l'Halloween, mais ils ne savent pas que c'est la Toussaint demain. La commémoration, on commémore nos morts, on pense à eux et on prie pour eux. Je vous ai dit d'ailleurs en ondes qu'en France, c'est un grand jour même. J'ai reçu un appel ce matin de Paris. Vers 9h, justement, le téléphone sonnait pour me souhaiter une bonne Toussaint. Et ils étaient tout surpris que je fasse une émission le jour de la Toussaint, mais vous travaillez le jour de la Toussaint. Pour ces fêtes de congé. Et alors aujourd'hui, je crois qu'il faut célébrer. Et nous allons célébrer ensemble. Et je vous cite quelques paroles de la messe que vous connaissez fort bien. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et nous ne formons qu'un seul corps avec la grande Église militante, qui est au ciel, tous les saints. Et cette prière de la messe se continue ainsi, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, une éternelle offrande à ta gloire, en d'autres termes que nous allions tous au ciel, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. On ne remarque pas assez toutes ces prières magnifiques. Ah, si on les récitait du fond du cœur, on comprendrait autre chose que ce que comprenait Francis Jammes. Ce grand poète qui est mort justement un 1er novembre 1938, il était né en 1868, un 2 décembre, dans les Hautes-Pyrénées. Ces montagnes séparent la France de l'Espagne. Et c'est donc un homme du sud de la France. Et en lui, bien aucune hésitation, jamais pour choisir sa route. Quand il l'a choisi, aucun retour en arrière, aucun regret. C'est ça qui fait les saints. Je ne veux pas vous parler de Francis Jammes bien longtemps, c'est un poète un peu dépassé. Sa poésie ne sourit guère aux gens d'aujourd'hui. Mais il a quand même écrit quelques lignes qui sont parfois assez belles. « Je sens que je suis fait pour un amour très pur. » Et il a écrit aussi, « Laisse-moi, ô mon Dieu, m'agenouiller à terre. Je veux te célébrer en pleurant dans mes mains. Je n'ai que ma douleur et je ne veux plus qu'elle. » Il écrivait aussi, « Mon Dieu, peut-être que je croirai à vous davantage si vous m'enleviez du cœur ce que j'y ai et qui ressemble à du ciel roux avant l'orage. » Il était donc désireux de changer de vie. Et c'est pour ça qu'il avait fait ce raisonnement. Il est impossible que Dieu empêche un homme qui le désire de s'unir à lui. Il faut désirer être saint. Et c'est ainsi que nous pouvons arriver à cette union que l'Esprit Saint accomplit en nous. Francis Jammes écrivait, « Mon âme crie, elle a la nostalgie des cieux. Et aussi maintenant, ô mon Dieu, je sais que chaque chose porte en soi son mystère et que vous le savez. » Son désir de se convertir était toujours mêlé de sentimentalité. C'est le recteur des universités de Paris que j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi un jour, M. Robert Mallet, il y a bien longtemps, il y a bien 20 ans, je crois. Il a écrit un très beau livre sur Francis Jammes. Et il disait que, avant sa conversion, il était un chrétien involontaire, déjà. Et il dit aussi que, il avait l'âme religieuse, mais il se contentait de cultiver cette sentimentalité un peu romantique, où l'art et la rêverie tenaient sans doute autant de place que Jésus crucifié. Et c'est le grave danger de tomber dans une espèce de rêverie pieusarde, on est tous portés à ça, et de se complaire dans une religion que l'on pratique même quotidiennement, où l'on récite des chapelets au besoin le soir avec Radio Ville-Marie. Et puis on fait des lectures pieuses. Mais on n'est pas transformé par le Christ, par l'Esprit-Saint. On n'est pas touché au tréfonds de notre être. C'est pas facile, évidemment. C'est pas facile. Il a écrit, Francis Jammes, je termine avec quelques vers, « Soyez bénis, Seigneur, par qui j'ai recherché l'amour de l'absolu qui manquait au péché. Tout est vain qui n'est pas le grand calme de Dieu. Je quitterai la vie afin de la trouver. » Et cet homme est mort, donc, un jour de la Toussaint, 1938, Francis Jammes. C'est un saint, peut-être, qui sait, un de ces innombrables saints ignorés que l'on célèbre aujourd'hui, la fête de tous les saints. Ça peut être en même temps la fête de votre mère, de votre père, qui sont décédés, de vos grands-parents que vous avez aimés, qui étaient peut-être des saints du quotidien. Mais au début de l'Église, on célébrait les saints martyrs. Dès le IVe siècle, les Églises d'Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le monde de l'orthodoxie, des églises orthodoxes, célébraient en une fête commune tous les martyrs de la terre. Et c'est saint Ephrem, ce fameux diacre syrien, qui a composé beaucoup de choses, lui. Il a beaucoup écrit, composé pour la circonstance une hymne, où l'on voit que dans la ville d'Édesse, Urfa aujourd'hui, Édesse, c'est là où était conservé le Saint-Suaire pendant des siècles, avant qu'il ne se rende à Constantinople, où les Français s'en sont emparés en l'an 1204, n'est-ce pas, lors de la conquête chrétienne occidentale de Constantinople. Alors, on voit donc dans son hymne qu'à Édesse, la fête était fixée au 13 mai. Et c'est intéressant de se rendre compte de ça, parce qu'en Syrie, la fête était placée au vendredi après Pâques. Alors, la fête de la Toussaint était mêlée avec la résurrection du Christ. Eux qui étaient, pour ainsi dire, ressuscité. Et dans une homélie sur les martyrs, on retrouve chez saint Jean Chrysostome cette précision, où il parle du premier dimanche après la Pentecôte. Et c'est très beau aussi de fêter tous les saints juste au premier dimanche après la Pentecôte, mais c'est passé ça. Hein? Mais cet usage a été conservé quand même jusqu'à nos jours dans l'Église, justement byzantine, l'Église orthodoxe, et nos frères catholiques de rite oriental, qui sont au fond de l'Église orthodoxe. Ils sont, leur cœur est très attaché à l'Église orthodoxe, souvent plus au fond qu'à notre Église latine. Et je ne les blâme pas parce que ils y trouvent le reflet de leur âme. Et l'Église byzantine a, par une évolution normale, transformé la fête des martyrs de toute la terre en celle de tous les saints. Alors, le choix des différentes dates, c'est significatif. On a voulu associer les saints au triomphe du Christ, à Pâques, puis à l'effusion de l'Esprit, à la Pentecôte, Et puis, c'est l'empereur Léon le Sage. Oui, c'est curieux, ça fait presque un nom québécois, hein, Léon le Sage, et qui est mort en l'an 911, qui a écrit « L'Église célèbre les fleurs produites par la terre, arrosées des fleuves du Saint-Esprit. Hein. » C'est la poétique orientale. Et comme souvent, l'Orient ben, a montré la voie à l'Occident, et c'est probablement le 13 mai 609. Il y a donc, mon Dieu, 1400 ans presque, que le pape, c'était même avant la naissance de l'islam, ça. C'est probablement le 13 mai, donc 609, que le pape Boniface IV, muni de l'autorisation de l'empereur Phocas de Constantinople, a transformé le Panthéon à Rome en une église de la bienheureuse Marie toujours vierge et de tous les martyrs. Hein. Le Panthéon, c'est magnifique, hein, c'est une architecture extraordinaire. Et cette dédicace de la nouvelle église, donc, de Sainte-Marie aux martyrs, devait entraîner la composition, on composait des messes hein, en l'honneur des martyrs. Et les oraisons sollicitaient leur intercession. L'épître était tirée de Saint Jean, au chapitre 7. Il décrivait la gloire des élus de toutes les nations. Réunis dans le ciel. Quand on dit Saint Jean, on parle évidemment de l'Apocalypse. Je vous fais donc la lecture de la messe d'aujourd'hui au cas où vous ne pourriez pas y aller. Parce que c'est très beau. C'est une vision du ciel. Une vision grandiose. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, le front des saints, quoi. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Vous savez-vous que les témoins de Jéhovah prennent ça à la lettre et pensent qu'il n'y a que 144 000 saints au ciel et que tous les autres êtres humains qui ne feront pas partie des 144 000, qui seront évidemment des témoins de Jéhovah, eh bien, disparaissent, tombent dans le néant. J'espère qu'ils ne croient plus ça, qu'ils ont changé leur enseignement. Parce que 144 000, c'est un chiffre qui signifie presque l'infini. Et le texte de Saint Jean continue. « Après cela, j'ai vu une foule immense. » Et c'est ça qui est très beau. Hein. « Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs, avec des palmes à la main. » L'agneau, hein, c'est le symbole de Jésus-Christ. « Et il proclamait d'une voix forte, « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Et Saint Jean termine en disant, « Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit à Saint Jean, « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Et je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Et il reprit, « Ils viennent de la grande épreuve. » Oui, c'est notre vie, ça. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Hein. Ce sont des martyrs. Mais être martyr, c'est pas nécessaire de verser son sang, peut-être. Hein. Parce que aujourd'hui, vous savez que nous est arrivée une nouvelle du Vatican grâce à l'Osservatore Romano il y a quelque temps. Ça, c'est au début de l'année. Vers le mois de mai. Et le Serbatore Romano soutenait que des prêtres et des magistrats tombés dans la lutte contre la mafia en Sicile, vous savez, des curés de paroisse qui se sont opposés à la mafia et qui ont été assassinés, et des juges aussi qui sont morts, hein, bien, on dit qu'ils pourraient être un jour béatifiés si l'on élargissait le sens du terme « martyr chrétien ». Le martyr chrétien, quoi. Sous le titre « Martyr pour la justice », le quotidien laisse entendre, l'Osservatore Romano, que l'on pourrait inclure dans la notion de martyr chrétien non seulement ceux qui subissent la mort en haine de la foi, mais également ceux et celles qui se font enlever la vie en raison de leur engagement pour la justice, l'amour du prochain et la défense des valeurs fondamentales. Et c'est un des discours du pape, hein, c'est dans un de ses discours lors de sa visite en Sicile au mois de mai il y a 2 ans, en 93, Jean-Paul II a utilisé cette expression « martyr pour la justice » en s'adressant aux parents du juge Rosario Livatino, assassiné par la mafia sicilienne. Il y a eu des études qui se sont déroulées l'an dernier, en 94, dans le but d'approfondir justement cette notion de martyr pour la justice, et on pourrait, semble-t-il, d'après le Vatican, l'appliquer dans notre monde contemporain aux actes de résistance des chrétiens face à la mafia et qui osent s'exposer à la mort dans le but explicite de suivre le Christ. Et il n'est pas nécessaire de s'opposer seulement à la mafia, il y a d'autres occasions. Combien de martyrs dans ce siècle-ci sont morts? Pensons simplement à Mao. Mao Tse-tung, qui serait peut-être le plus grand assassin de ce siècle, d'après des nouvelles qui sont parues dans le journal il n'y a pas si longtemps. On disait que ce Mao Tse-tung était peut-être vraiment le plus grand assassin contemporain, en faisant plus de victimes que plusieurs dictateurs réunis. Tout ça, c'est selon les recherches historiques les plus récentes. Car Mao Tse-tung pourrait être responsable de la mort de 60 à 80 millions de personnes massacrées et affamées. Pensez à Staline aussi. Tous ces grands maîtres de l'athéisme ont tué bien plus de monde que l'Inquisition sur laquelle on revient constamment. Les plus grands spécialistes de l'Inquisition disent qu'en 600 ans, en Espagne, l'Église n'a pas tué plus d'environ 800 ou 900 personnes en 600 ans. C'est terrible que l'Église ait déjà tué une seule personne. C'est abominable, c'est tellement contraire à l'Évangile que ça me fait frémir. Mais on exagère toujours en croyant qu'il y a eu des millions de morts. J'avais déjà lu sous la plume de... je ne le nommerai pas, dans Le Devoir, il y a bien des années, qu'il y avait eu 5 millions de morts en Espagne à cause de l'Inquisition. Les plus grands spécialistes du Centre National de la Recherche Scientifique à Paris, et qui ont étudié la question à fond, arrivent au chiffre d'environ 800 ou 900. Il y a les autres qui sont morts aussi au même moment, mais sont morts à cause du pouvoir politique en Espagne. C'est pas la même chose. Et dans le journal, je lisais au sujet de Mao Tse-tung que ces révélations sur les 60 à 80 millions de personnes tuées par le maoïsme, toutes ces révélations se multiplient jusqu'à établir la preuve que l'on a même pratiqué le cannibalisme sous la révolution culturelle chinoise et que Mao Tse-tung a fait plus de victimes qu'Adolf Hitler et Joseph Staline réunis. L'historienne chinoise Gong Xiaxia déclarait que « assassin n'est pas le mot qui convient ». C'était un monstre. Hitler a envoyé quelque 30 millions de personnes à la mort dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. On dit que Staline est responsable d'au moins 10 millions, mais simplement en Ukraine, au début des années 30, il en a affamé tellement qu'une grande partie des Ukrainiens catholiques sont morts de faim. Bon, peut-être 2 ou 3 millions, hein. Et peut-être puis il faut lire ça, j'ai un livre là-dessus chez moi, c'est bouleversant. En tout cas, un document publié par le journal Société de l'Université de Shanghai en 1993, affirmait que 40 millions de personnes étaient mortes lors de la grande famine de 1959 à 1961, quoi, en 2-3 ans, qui a suivi l'absurde campagne d'industrialisation de Mao Tse-tung. Ce sont des sortes de martyrs d'une espèce d'idéal extrait finalement de l'Évangile, comme je vous ai déjà dit, cette partage des richesses, cette uniformisation, mais qui tourne à l'absurde. C'est vraiment tragique. Mais revenons donc à la Toussaint. À la fête de la Toussaint, on lit aussi l'Évangile qui raconte la visite de Jésus à Zachée, qui parlait de l'université du salut. Mais aujourd'hui, on lit autre chose. On lit le beau texte des Béatitudes. C'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire. Heureux ceux qui pleurent. Heureux les doux. Heureux les pauvres. Vous savez que dans le texte original, c'est debout, selon André Chouraki, qui a étudié ça à fond, ce juif qui a traduit le Nouveau Testament. Il n'est pas catholique, mais il a fait une traduction étonnante. En tout cas, le salut, disait Jésus dans l'ancienne lecture de l'Évangile, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, et on trouvait que c'était une vision que Jésus avait de l'universalité du salut qu'il apportait à l'humanité, où tout le monde est appelé à la sainteté. Le Panthéon, qui de temple païen était devenu une église, en était le signe. On n'avait encore jamais vu à Rome une telle transformation d'un temple. Il fallait affirmer solennellement la prise de possession de ce temple par le culte chrétien. Alors, dès l'entrée, on chantait « Terribilis », je me souviens de ce chant grégorien que nous chantions à Saint-Benoît-du-Lac. « Ce lieu est terrible, dit le texte, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel, on l'appellera la demeure de Dieu. » Et au graduel, dans la messe, dans ce temps-là, il y avait un graduel, on chantait « Ce lieu a été fait par Dieu, inestimable mystère, il est sans nul reproche. » C'est ça une église. Une église, c'est un endroit qui a été fait par Dieu, au fond. Et c'est un inestimable mystère où l'éternité rencontre le temps, où à l'autel, le prêtre transforme de la matière en Dieu. Selon les paroles mêmes de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et Jésus a bien affirmé sa divinité. Et c'est ainsi que nous recevons, nous croyons, Dieu lui-même, comme nourriture pour nos âmes et nos corps même. Et ces louanges qu'on chantait autrefois, ça n'avait rien de déplacé. Le Panthéon, quand on y va, c'est magnifique. C'est une réussite architecturale absolument merveilleuse. La voûte qui est surbaissée est éclairée seulement par son centre. C'est un grand rond, pénètre la lumière, puis le ciel. Mais cette architecture dépouillée, qui est vraiment religieuse au fond, elle est désaffectée aujourd'hui. Ça n'est plus une église, malheureusement. C'est pour les visiteurs, les touristes. Son aspect extérieur, c'est peu satisfaisant. Parce que le sol était remonté à Rome. Alors, toutes ces choses-là sont dans des creux. Alors, c'est entouré d'un fossé. Je me souviens qu'en 1950, quand je suis allé, c'était plein de chats qui venaient s'y reposer au soleil. C'était assez sympathique dans un sens, mais en tous les cas. C'est le Panthéon, donc, est un signe de cette conversion du paganisme au christianisme et qui est devenu un temple pour les saints. Et dans la pensée de Boniface IV, le pape Boniface IV, le 13 mai, c'était une véritable Toussaint, et le choix de la date, c'était bien révélateur. Mais il a décidé de changer ça pour le 1er novembre, et je vous expliquerai pourquoi il a choisi vraiment le 1er novembre. Alors voici pourquoi on a choisi le 1er novembre pour fêter la Toussaint. L'expression « temps de Toussaint », évidemment, évoque pour nous le brouillard, le froid, le début de l'hiver, quoi. Et les religions ont toujours aimé marqué par des fêtes et le rythme des saisons, et le christianisme n'y a pas manqué, c'est évident, on le sait. Pensons simplement autrefois aux fêtes où on célébrait les récoltes. Je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait des fêtes pour ça. C'était magnifique et on allait en procession dans les campagnes, dans les champs, avec des bannières, et on bénissait les champs. C'était beau, au fond. Il y avait quelque chose d'un peu écologique. Et tout s'est disparu au moment même où il y a un retour à la Terre et un désir d'appeler la Terre Gaïa, comme si elle était elle-même notre mère et tout ça. Très étrange nouvel âge qui nous enseigne des choses comme cela, alors que c'est Dieu qui est notre Père et notre Mère. C'est Dieu qui nous a fait, la Terre ne nous a pas fait. Nous venons du sol, d'accord, mais par le mystère de la génération qui est l'œuvre de Dieu. Et alors, chez les Celtes, le 1er novembre était un jour de grande solennité. Alors, est-ce qu'on doit conclure que la Toussaint a été instituée pour christianiser ces cérémonies qui étaient chères aux Francs, nos ancêtres, ou aux Anglo-Saxons, les ancêtres de nos concitoyens du Canada? Alors, cette idée répugne pas, mais il faudrait des preuves. Mais il est curieux, en tous les cas, de remarquer qu'en Gaule, en France, si vous voulez, on avait, du 6e au 8e siècle, essayé de mettre une fête de saint au 1er novembre. Alors, on assignait certains personnages dont l'anniversaire était inconnu, puis on avait mis là Saint-Bénigne de Dijon, Saint-Ludre de Déol, puis des saints connus, le Saint-Mathurin de Larchant, etc., etc. La Toussaint est complétée, on le sait, par la commémoraison des fidèles défunts demain. C'est devenu rapidement très populaire. Les coutumes, les usages qui s'y rattachent tiennent d'ailleurs autant la dévotion aux saints qu'à la commodité de la date du 1er novembre. Et relativement tardive, la messe de la Toussaint a été en partie composée d'emprunts, je vous l'ai dit, ce qui n'empêche pas d'être très belle. Je vous conseille d'y aller aujourd'hui, même si vous dites « Ah, mais oui, mais chez moi, dans notre paroisse, la messe est ennuyante. » c'est plate, les lectures sont mal faites, etc. Mais faites-les à l'intérieur de votre cœur, les lectures. Lisez l'Alléluia. Lisez la communion après avoir reçu le Christ dans votre âme. Vous direz, c'est mal lu. Oui, mais lisez-la à l'intérieur, elle sera bien lue. Et lisez-la vous-même un peu à haute voix. Et pour la lecture de l'Évangile, vous direz, ah, ben notre prêtre ne le lit pas tellement bien. Mais lisez-le à l'intérieur, c'est si beau. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent. Je vous l'ai lu, déjà. Et alors, ouvrant la bouche, Jésus se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux. Ils obtiendront la terre promise. » Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est absolument fantastique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne peux m'empêcher de vous lire ce petit texte, très bref, de Mgr Laurent Noël. Oh, ça date d'il y a longtemps. Ça a 17 ans, ce texte, et c'est très beau. Il dit, les hommes, et les femmes évidemment, sont mus beaucoup plus efficacement par les exemples que par les discours. D'ailleurs, la pédagogie du Seigneur fut d'accomplir d'abord lui-même ce qu'il allait demander à ses disciples. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Et lui, Jésus, bien, il marche le premier, disait Mgr Laurent Noël, évêque de Trois-Rivières. Et qui a marché comme ça à la suite du Christ? Ce sont les saints dont je vous parle souvent. Et j'aimerais vous parler d'un saint merveilleux, le bienheureux Nuno Alvarez Pereira, dont la fête est le 1er novembre. C'était pas n'importe qui. Il était connétable et carme. Chose étrange à la fin de sa vie. Il est mort en 1431. Vous savez qu'un connétable, c'est pas n'importe qui. C'est le commandant suprême des armées. Et comme il était commandant suprême des armées du Portugal, il a lutté pour l'indépendance du Portugal, il a lutté avec des armes et il est bien heureux. Il a défendu l'indépendance de son peuple, les Portugais. Il est né le 24 juin, le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, 1360. Il a été élevé à la cour du Portugal. Nuno Álvares Pereira. Il y a 17 ans, il a épousé, il est marié jeune, il a épousé Éléonore de Alvis, dont il a eu deux fils qui sont morts en bas âge, et une fille, Béatrice, qui a épousé, pas n'importe qui, Alphonse, comte de Barcelos, puis duc de Bragance, qui est devenu, donc elle est devenue duchesse, qui était fils naturel du roi Jean Ier de Portugal, et donc ancêtre de la dynastie de Bragance. Et à la mort du roi de Portugal, en 1383, sa succession a été revendiquée par le grand maître de l'ordre d'Alvis, Jean, et par le roi de Castille, en Espagne, quoi, Jean Ier. Et bien que les droits du roi de Castille étaient au moins aussi bien établis que ceux de son rival, mais les Portugais, qui craignaient de perdre leur indépendance et d'être ainsi absorbés, ont refusé unanimement de le reconnaître. Avez-vous déjà pensé à ça, que les Portugais, au fond, sont des séparatistes, séparés de l'Espagne? Curieuse chose, hein? Et le roi de Castille, donc, en Espagne, a envahi le Portugal, mais s'est heurté à une résistance énergique, qui était conduite par nul autre que l'archevêque de Braga, un archevêque qui conduisait la résistance, puis notre bienheureux Nuno Álvares Pereira, qui était devenu à 23 ans seulement connétable, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, commandant suprême des armées du Portugal. Alors la peste a obligé les Castillans, les Espagnols, à lever le siège de Lisbonne le 3 septembre 1384, mais ils sont revenus l'année suivante. Ils étaient trois fois plus nombreux, mais ils ont été battus d'une façon terrible par les Portugais le 14 août 1385 à Aljubarrota. Alors notre Nuno Álvares Pereira, qui avait joué un rôle de premier plan, était déjà considéré comme un héros national, alors le roi l'a comblé d'honneur, il était vrai, franchement mérité, hein. Et notre bienheureux se faisait remarquer par sa dévotion envers l'Eucharistie, envers la Sainte Vierge, et par l'austérité de sa vie, et par la rectitude de sa conduite. Ce bienheureux extraordinaire craignait pas de proclamer qu'il puisait son courage militaire dans la communion, et qu'un soldat libertin était facile à vaincre, mais qu'un soldat solide, profondément chrétien, pouvait défendre courageusement son pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de soldats chrétiens avec les armes que nous avons, l'horreur de nos guerres? Ce serait bien difficile. Mais quand même. Alors, il est devenu veuf de bonne heure. Il a toujours refusé de se remarier. Puis à 62 ans, il a abandonné sa charge de connétable. Puis en juillet 1422, il a pris l'habit de frère, de simple frère, oui, de simple frère, sous le nom de Nuno de Sainte-Marie, dans le couvent des Carmes qu'il avait fondé à Lisbonne, puis il a refusé absolument d'être admis au nombre des religieux de cœur, là, les moines de cœur. Il a voulu s'acquitter de ses fonctions, qui étaient les plus humbles. Il répétait sans cesse que dans la maison de Dieu, il n'y avait pas d'office inférieur, et qu'il y était entré pour mener la même vie pénible que les autres, et pour éviter de recevoir des visites de ses innombrables amis et admirateurs. Il voulait pratiquer un recueillement aussi parfait que possible. Ben, il a désiré être envoyé dans un autre couvent, mais à la demande du roi du Portugal. Mais ses supérieurs carmes s'y sont opposés, puis s'est soumis humblement. Et pendant une dizaine d'années, il a donné à tous les plus beaux exemples. Et se sentant proche de sa fin, il a fait une profession de foi solide, courageuse, entière, puis a reçu les derniers sacrements. Sacrements qu'on appelle des malades aujourd'hui. Et il est mort au moment où son confrère Carme lui lisait la Passion selon saint Jean, et où il arrivait au mot « Voici ta mère ». Lui qui avait une grande dévotion à Marie. C'est très beau. Vous savez, c'est quand Jésus, sur la croix, dit à saint Jean, avant de mourir, en désignant évidemment Marie, sa mère, « Voici ta mère ». La tradition nous indique d'ailleurs que saint Jean représente toute l'Église. Et c'est ainsi que Marie est appelée la mère de l'Église. Et alors, il est mort, ce bienheureux Nuno Alvarez Pereira, le 1er novembre 1431. Il a été aussitôt vénéré, et Benoît XV a confirmé son culte le 23 janvier 1918. Dans un ouvrage assez intéressant qui s'appelle « Copie non conforme » et qui nous donne, prétend-on, le vrai visage des saints, révélé par leur écriture, l'éminent graphologue italien Girolamo Moretti, un capucin, oui, un capucin, c'est-à-dire une sorte de franciscain, si vous voulez. Les capucins à Montréal sont très réputés, c'est eux qui ont la chapelle de la réparation, à ce qu'on appelait la pointe aux trembles autrefois. C'est très fréquenté. Et alors, ce capucin a fait des analyses très intéressantes. Et dans l'introduction de son livre « Copie non conforme », où, je vous le rappelle, il analyse par l'écriture le vrai visage des saints, il écrit, c'est-à-dire, c'est une introduction, oui, je ne crois pas qu'elle ait été écrite par quelqu'un d'autre. De toute façon, c'est écrit, il y a environ 45 ans, Monseigneur Clementi, historien attaché au Vatican, avait donné au père Girolamo Moretti, moine franciscain, on m'avait toujours dit qu'il était capucin, mais en tous les cas, et graphologue éminent, on lui avait remis une lettre de Saint-Joseph de Copertino, qui venait d'être choisi comme patron des aviateurs, parce que c'était un saint qui jouissait de ce privilège curieux de lévitation, dont je vous ai déjà parlé, hein, il levait dans les airs. Alors le graphologue Moretti avait été consterné de trouver chez son sujet, ce saint Joseph Copertino, des signes de faiblesse de caractère et de désir de vengeance. Mais Monseigneur Clementi le tranquillisa. Il dit « Votre analyse correspond tout à fait à ce que nous savons des luttes que ce saint a dû soutenir toute sa vie contre les mauvaises tendances de sa nature. Les autorités ecclésiastiques se sont décidées donc à confier au père Moretti des spécimens d'écriture qui appartenaient à une bonne cinquantaine de saints et les noms de ces saints ne lui furent pas révélés afin qu'on ne puisse le suspecter de s'être laissé influencer par les noms, hein, évidemment. Alors le résultat de son travail, qui n'ont été publiés qu'après beaucoup d'hésitations, j'ai le livre chez moi, c'est absolument fantastique, eh bien, les résultats de son travail ont bouleversé à tel point le père Moretti qui a renoncé pendant 3 ans à la graphologie parce que celle-ci montrait les saints dans toute leur humanité. Il y a quelques exceptions près, cette humanité était faite d'inclinations pour le moins inquiétantes qui paraissaient peu compatibles avec la sainteté. Et dans le texte au début de ce livre, ça continue comme ça, ils disent « Que penser du sadisme psychique de saint Philippe de Néri ?» De l'esprit de vengeance de saint Ignace de Loyola, oui, de l'esprit de vengeance de saint Ignace de Loyola, du scepticisme de saint Jean de la Croix, ce grand saint, peut-être le plus grand mystique de l'histoire de l'Église, du scepticisme, le doute de saint Jean de la Croix. Imaginez, est-il vrai que sainte Thérèse d'Avila, elle, la plus grande mystique, docteur de l'Église. Donc, est-il vrai que sainte Thérèse d'Avila, avec une intelligence et une volonté hors de pair, était portée à la sensualité? Et que son homonyme, là, sainte Thérèse de Lisieux, aurait pu devenir modiste, modèle ou mannequin? Étrange chose, hein, quand on analyse l'Écriture. Et le grand mérite de cet ouvrage est de nous inviter à enrichir, à renouveler notre notion de la sainteté. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté? Dans un beau livre qui s'appelle « Sainteté aujourd'hui », paru il y a très, très longtemps, dans la collection des études carmélitaines chez Déclide Brouwer. Je lis à la page 54. Trois petites lignes. Si en ce jour on se souvient de ces trois petites lignes, ce sera merveilleux. Oh, je vais en lire cinq. La sainteté consiste essentiellement dans la perfection de la charité. La connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes en sont la condition et l'effet. Vérité et charité, c'est la sainteté. La sainteté est l'union à Dieu. L'union à Dieu se réalise par l'amour. Tu aimeras de tout ton cœur. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre, dans le Deutéronome, aussi bien que dans Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Et cette charité se développe en nous par l'action du Saint-Esprit, nous enseigne Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et ainsi est exaucée la prière de Jésus, je leur ai fait connaître et leur ferai connaître votre nom, pour que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, ainsi que moi-même, je suis en eux. Que c'est beau, les textes de la Bible. Mon Dieu, que c'est beau. J'aurais le goût de continuer à vous en lire. Mais enfin, dans l'introduction à ce livre, donc copie non conforme, il est écrit le profane, c'est-à-dire nous tous, tirera aussi des principes et des découvertes de la graphologie hagiographique, c'est-à-dire la graphologie des saints, quelques déductions profitables. On croit encore que la sainteté n'est pas une obligation universelle, comme si nous n'étions pas tous appelés, et que les saints sont des êtres spéciaux, sublimes par nature. Personne ne naît saint, nous répète avec une force nouvelle le père Moretti. Personne ne naît saint. Les saints partagent avec la foule des hommes une même hérédité, des tendances mauvaises, des passions prédominantes. Par inclination naturelle, ils appartiennent à toutes les catégories humaines. Et l'étoffe dans laquelle ils sont taillés, c'est aussi bien celle du délinquant que celle du lâche. Celle de l'homme supérieur tenaillé par l'orgueil ou par l'ambition que celle du débauché et du sensuel. Pensez à Charles de Foucault, qui est mort comme un saint, qui était un débauché et un sensuel. Pensez à tous ces saints qui ont eu des débuts de vie abominables. C'est le Saint-Esprit qui a transformé ces saints. Alors le texte continue. Face à ces forces d'attraction dont les sciences modernes et la psychanalyse révèlent à l'envi l'emprise sur l'homme, les saints ont su se faire violence. Mais laissés à eux-mêmes, ils n'auraient pas plus que nous trouvé la volonté nécessaire. À la ténacité, ils joignent la prière incessante. Ils joignent la prière incessante et insistante, la plus puissante des armes. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera, dit Jésus. Par-dessus tout, les saints accueillent joyeusement la grâce en eux et coopèrent à son action. La sainteté, c'est de ce travail intérieur qu'elle est faite. Et elle n'est pas proportionnelle aux dons innés dont on dispose, ni à l'harmonie ou à l'ampleur des résultats visibles. Des âmes admirablement douées restent enchaînées à cause même de leur qualité exceptionnelle, tandis que la sainteté est souvent l'apanage des pauvres qui s'humilient devant Dieu. L'apanage des pauvres. Et en déchiffrant les tendances naturelles des saints, la graphologie ne les déshonore point, et elle glorifie Dieu dont la grâce a pu montrer à travers eux toute sa fécondité. L'analyse, jointe à ce que l'on sait par ailleurs de la vie et des écrits du sujet, permet de deviner le mystérieux travail de la grâce qui déifie la nature sans l'abolir. Ainsi, la sensualité dépouillée de ses scories, unie au sentiment, s'élève vers le mysticisme. L'ambition se tourne vers le domaine de l'esprit. La prodigalité se fait générosité envers Dieu et le prochain. La volonté devient conforme à la volonté divine. Tout pénétré de grâce, le saint conquiert la douceur, la pauvreté d'esprit, la pureté du cœur. Il n'a rien perdu, il a tout gagné. Il est le véritable être libre et fort, le véritable original, le véritable artiste, l'homme qui semble se jouer des déterminismes. Comment exprimer avec les mots de chaque jour ces relations de la nature et de la grâce, en laissant la parole à deux hommes qui les ont sans doute éclairés le plus génialement? Et le texte continue en disant « La deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens est la plus belle introduction à cet ouvrage, copie non conforme. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Ma grâce te suffit car ma puissance triomphe dans la faiblesse. » C'est la parole que Dieu a jetée dans le cœur de Saint Paul. « Ma grâce te suffit car ma puissance triomphe dans la faiblesse. » Et Saint Paul dit, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Et puis dans les pensées de Pascal, « L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs, naturel et ineffaçable sans la grâce. » En somme, le christianisme est étrange. Il ordonne à l'homme de reconnaître qu'il est vil et même abominable. Et le christianisme lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation le rendrait horriblement vain, et cet abaissement le rendrait terriblement abject. Nous sommes faits par Dieu pour pouvoir dire des paroles comme les suivantes, « Tu m'as fait pour t'aimer, ô Seigneur, qui m'attire et qui me veut pour toi. Je suis fait pour t'aimer. » T'aimer dans le mystère où tu te tiens caché. T'aimer dans la clarté où tu te livreras sans voile à mon regard. Oh, je suis fait pour t'aimer et pour te ressembler. Oh Dieu, qui est amour. »